France Inter, le 6-9 du week-end.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia,
bonjour à
tous.
Alain.
L'animal préféré de Darwin était le ver de terre.
Eh oui, et il savait de quoi il parlait, lui qui fut l'un des plus grands naturalistes et l'un des plus célèbres, en particulier pour ses travaux sur l'évolution des espèces. Pendant 45 ans, Darwin a étudié le lombric et il a publié en octobre 1881 le fruit de ses travaux, un véritable plaidoyer pour le lombric, raison pour laquelle une ONG britannique,
oui, The Earthworm Society of Britain,
je vous remercie, a souhaité en 2016 que le 21 octobre, c'est mercredi prochain, soit la journée mondiale des vers de terre.
Et en quoi les lombrics sont-ils si importants pour la planète?
Ils se déplacent en consommant les matières végétales en décomposition et ils ont de l'appétit, beaucoup d'appétit. Tous les jours, un individu ingère 20 fois son poids, c'est considérable. À peu près, oui. Ils sont donc bien, je cite Aristote, les intestins de la terre. Les lombrics sont bien sûr très utiles, car ils aèrent le sol, favorisent la circulation de l'eau et accélèrent la décomposition des déchets. Cerise sur le gâteau, leurs déjections sont un excellent engrais.
Oui, encore faut-il que ces vers de terre soient nombreux, très nombreux.
Oh là là, vous n'avez même pas idée. Les scientifiques estiment que dans les régions au climat tempéré, il est possible d'en trouver entre 1 et 3 tonnes à l'hectare, ce qui est là encore considérable. Et ils vivent donc à quelques centimètres sous la surface du sol. Car la nature, voyez-vous, fait bien les choses. Les lombrics ne respirent pas avec des poumons, mais grâce à une peau qui facilite les échanges gazeux. Sachez aussi, Patricia, que les lombrics sont hermaphrodites et ils atteignent leur maturité sexuelle à 3 mois, puis mettent au monde tous les ans jusqu'à 80 petits.
Et combien de temps peuvent vivre les vers de terre?
Alors, déjà, sachez qu'il en existe 5000 espèces, et l'espérance de vie varie d'une espèce à l'autre, bien évidemment. On estime donc qu'en moyenne, un lombric peut vivre entre 2 et 8 ans, quand il n'est pas mangé par une taupe, un oiseau ou un congénère originaire de Nouvelle-Zélande, surnommé le tueur de lombric, moins connu. Il est aussi menacé par un champignon qui produit un filament en forme de boucle qui étrangle le ver de terre quand il y passe la tête. Le filament se referme tel un nœud coulant et étrangle alors notre lombric. Pendant que celui-ci agonise, ce que je dis est épouvantable. Hein.
Champignon. C'est une horreur votre histoire ce matin.
Ah oui, attendez, bon, on n'en parlait pas. Le champignon, le même champignon, produit un deuxième filament qui va pénétrer dans le ver de terre et le dévorer de l'intérieur. Bonjour.
Oui, comme vous dites, bonjour. Alain Baraton, jardinier de Versailles, vos conseils à présent, vos réponses aux auditrices et auditeurs de France Inter qui nous ont écrit.
Avec Bertrand. Plaisir.
Bertrand voudrait vous parler de sa vigne vierge. Est-ce qu'elle endommage les murs sur lesquels elle pousse?
Absolument pas. Autant que
les murs sur lesquels elle pousse.
Elle produit des petits crampons, ce qui lui permet donc de bien se fixer. Elle va même permettre de favoriser l'isolation du bâtiment, accueillir sous vos fenêtres une biodiversité, quantité de petites bestioles qui peuvent attirer les oiseaux. Donc effectivement, la vigne vierge prend des teintes merveilleuses à l'automne et n'endommage absolument pas les façades sur lesquelles elle pousse.
Et Jeanne, est-il possible de rabattre un très vieux figuier?
Ah, c'est toujours possible.
Rappelez-nous, rabattre un arbre.
Rabattre, c'est couper très court dans l'espoir qu'il rejette de la base. Le problème, voyez-vous, c'est que quand on taille un végétal, on est toujours persuadé qu'on lui fait du bien. Si la plante se développe avec force après avoir été coupée, c'est un réflexe de survie. Le raisonnement est logique. Vous avez des feuilles semblables à des panneaux solaires. En réduisant le nombre de panneaux solaires, la plante elle a le sentiment qu'elle va souffrir mieux, qu'elle va mourir. Aussi, elle se hâte de reproduire de nouveaux feuilles, donc de nouveaux panneaux solaires. Mais cette action fatigue le végétal. Et rabattre, par exemple, un figuier de manière trop importante ou trop fréquemment peut le fatiguer, donc ne plus lui permettre de lutter ensuite contre les agressions comme les maladies. Donc oui, il est possible de rabattre court un figuier, donc à 1 mètre ou 2 du sol, quand on le fait seulement tous les 20 ou 30 ans, pas davantage.
Hubert vous demande s'il suffit de creuser un trou dans le jardin pour y stocker les carottes pendant l'hiver.
Et oui, ça peut paraître stupide, mais vous avez les carottes, vous aimez
dans le sable.
Dans le sable, mais également dans votre jardin. Mais attention, c'est une technique efficace à condition qu'il n'y ait pas aussi dans le jardin d'autres petites bestioles qui, elles, se délecteraient de savoir qu'une réserve à manger là, juste à côté de chez elles.
Dans mon jardin, dit Nicole, au Cap Ferret, certaines racines de pin ressortent du sol, peut-on les rogner sans préjudice pour l'arbre ?
Non, parce que si les pins, justement, ont développé les racines en surface, c'est pour mieux s'ancrer dans la terre et résister au vent. Vous coupez les racines, vous risquez de tuer les arbres.
Allez, un dernier conseil pour ce dimanche.
Il avait écrit l'éloge du ver de terre en 2008 chez Flammarion. Il récidive avec Sauver le ver de terre, l'un des premiers marqueurs de la biodiversité. L'auteur est Christophe Gatineau. Il s'est fait aider de Sylvie Corée. On le trouve en livre de poche à 8,90 €. Tout est sur le site France Inter.
Et le prix aussi en prime. Merci Alain Baraton, le jardinier de Versailles. On se retrouve samedi prochain.
Avec plaisir, à samedi.